Superbe donc cette transition, puisqu'on parle du loup, bah parfait. Alors accueillons Christian au micro, le temps d'un petit passage entre les chaises.
Petite transition de chaise.
Petite ouais. transition.
Alors moi, je suis content parce que c'est des chaises musicales, c'est des chaises animatrices, tu vois, sur une forme.
Alors moi, je suis content parce que j'ai reçu ce livre aujourd'hui même avec une petite dédicace.
Qui est sorti quand même il y a déjà
un an. Il y a déjà un an, c'était pour la Transhumance 2014.
Et sur lequel je suis invité à le bûcher pour 2016. Alors du coup, je suis pas au courant.
Donc, bah, ça tombe bien.
On va commencer par le début. Christian Rey avec l'association Dea Augusta. Et le musée de Die et du Diwa, vous avez édité tous ensemble ce livre, L'éradication du loup dans les préalpes dromoises au XIXe siècle. Alors, petite explication.
Petite explication, d'abord sur la motivation à faire la recherche et ensuite produire le livre. J'ai été confronté, parce que j'ai de nombreux amis agriculteurs dans le Diwa, à la problématique du loup qui a fait son retour depuis les années 90. Et j'ai voulu m'interroger sur comment une autre civilisation, celle du XIXe siècle, qui était confrontée de façon encore plus prégnante à cette problématique, quelles réponses avaient été apportées.
On les connaît au moins en partie, ces réponses. En tout cas, effectivement, c'est dans le titre « Éradication du loup ». Concrètement, c'est passé par ça.
Alors, je me suis intéressé à une période qui part de 1789, date emblématique, puisque c'est la Révolution française, jusqu'aux années 1900. Avec des événements historiques et qui expliquent aussi pourquoi le loup était particulièrement présent, beaucoup plus présent qu'il ne l'est aujourd'hui, puisque c'était plusieurs dizaines de loups chaque année qui étaient tués dans le Diwa. Et au niveau national, c'était 1500 loups en moyenne par année dès le début du 19e siècle.
Alors pourquoi à cette période il était si présent ?
Eh bien, plusieurs raisons l'expliquent. Charlemagne avait inventé un système qui s'appelait celui de la louveterie, système qui a perduré jusqu'en 1787, époque où les finances de la France étant en grand désarroi, un petit peu comme aujourd'hui, le roi Louis XVI avait supprimé la louveterie. Quelque temps après, il y a eu la Révolution, une désorganisation du pays, des conflits avec les pays riverains de l'Europe, et qui dit conflit à cette époque, dit nombreux soldats sur les routes, désorganisation administrative quelque part, et puis pénurie alimentaire, enfin une certaine pauvreté qui s'installe dans les campagnes, autant d'éléments qui favorisent la progression du loup, qui va systématiquement suivre les armées en déplacement, notamment parce qu'il va trouver une alimentation quelque part dans les soldats décédés sur les champs de bataille.
Ah ouais, il était devenu charognard donc.
Voilà, le loup était à cette époque-là devenu charognard, ce qui explique sa grande progression partout en France, et particulièrement dans les zones frontalières comme la nôtre, puisqu'on n'est pas très loin des Alpes et de la frontière italienne. Néanmoins, tout de suite après la Révolution, s'est instauré le régime du Directoire, puis l'Empire avec Napoléon. Et Napoléon a quand même a eu la conscience de moderniser la France, et on a un héritage important aujourd'hui qu'on lui doit, ne serait-ce qu'avec le code civil ou une certaine organisation, notamment la mise en place de l'administration préfectorale à partir de 1805. Et c'est à partir de cette date que le gouvernement a décidé de redresser le pays et a confié aux différents préfets qui sont succédés une mission de remettre en route l'économie. Et cette économie qui était essentiellement rurale à l'époque dans nos régions, ça passait par le renforcement de l'agriculture et donc l'éradication des prédateurs et du loup en particulier.
Alors pourquoi, si on fait un énorme bond là avec l'actualité, pourquoi il revient ? On n'est pas dans une situation d'extrême pauvreté, c'est pas encore la révolution, on coupe plutôt les fonds à la culture plutôt qu'au lieutenant de louveterie. Enfin je veux dire, qu'est-ce qui se passe ?
Alors je pense qu'il faut prendre conscience que le Diwa du 19e siècle n'est pas le Diwa d'aujourd'hui. La population est beaucoup plus importante. Il ne faut pas oublier qu'aux alentours de 1880, pour prendre une date de référence, la population de l'actuelle communauté de communes de Die, du Diwa, c'était plus de 30 000 habitants, alors qu'aujourd'hui on est à peine 11 000. Donc trois fois plus de population, ça veut dire qu'à l'époque, nos collines, nos forêts, nos paysages actuels étaient occupés par le monde agricole, les moindres pentes étaient exploitées jusqu'au sommet. À la fois pour l'élevage des moutons qui constituait une partie non négligeable de l'alimentation, mais également pour toutes les autres cultures vivrières. Ça veut dire aussi que ce paysage était complètement déboisé par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. On n'avait pas encore mis en place la restauration des terrains en montagne et la plantation de pins noirs d'Autriche. Donc on avait un paysage qui était totalement différent. Des modes de vie, des modes de production agricole qui étaient également différents de ce que nous connaissons aujourd'hui. Le loup a pu prospérer dans ce domaine. On arrive dans le Diwa, arrondissement de Die, à recenser de multiples attaques pour cette période. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le loup était partout présent dans la Drôme. Moi, je me suis intéressé à l'arrondissement de Die. On trouve des loups dans les Ramières, à Granes, à Alex. On en trouve dans la région de Cré, dans la forêt de Sous, bien sûr. Et on en trouve jusque dans le Vercors et dans le Haut-Diwa. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la politique qui a été mise en œuvre par les préfets à l'époque, jusqu'en 1850, le loup est partout présent, jusqu'à la vallée du Rhône. Après 1850, il se cantonne en forêt de Sous, dans le Vercors et dans les communes du Haut-Diwa. On voit donc qu'il y a eu une action majeure de l'homme pour limiter sa progression et diminuer cette pression qu'ils exerçaient sur le monde de l'élevage.
Oui, voilà, c'est un prédateur, mais enfin, quand il est prédaté lui-même ou au moins insécurisé, il s'éloigne.
Oui, mais c'est intéressant de voir comment s'est fait cette prédation, parce que c'est riche quand même d'enseignements, y compris pour la période actuelle. L'histoire est un perpétuel recommencement quelque part. Ce qu'on peut se rendre compte en consultant les documents d'archives, c'est qu'au départ, après la Révolution, au début de l'Empire, on a essayé de pratiquer une politique d'éradication telle qu'elle se pratiquait avant la Révolution. Autrement dit, on a confié à quelques notables locaux qui devenaient lieutenants de louveterie la mission de se débarrasser des loups. C'était une fonction honorifique. Les lieutenants de louveterie étaient des gens riches, qui devait entretenir des piqueurs, c'est-à-dire du personnel capable de faire la chasse aux loups, des meutes, des chevaux, enfin tout le matériel qui va avec. Et on s'aperçoit que les battues qui étaient organisées à l'initiative de l'autorité préfectorale n'apportaient rien. En gros, on faisait une battue sur un village, je ne sais pas, Boulk par exemple, et quand on chassait massivement le loup sur Boulk, on faisait une grande battue, avec un grand concours de population, puisque tous les hommes à partir de 14-15 ans étaient mobilisés pour cette opération, ont transféré la problématique sur le village voisin, ou sur les villages voisins. Et on s'aperçoit que les sous-préfets de Die ont très fortement réagi à partir de 1830 en disant « mais c'est complètement inefficace ces mesures de battue qu'on a l'habitude de faire, en transférant le problème, on ne le règle pas ». Donc il y a eu des battues gigantesques qui ont été organisées. J'en ai une en mémoire qui a débuté aux environs de la Motte-Chalancon et simultanément du côté de Vassieux. Toutes les communes de l'arrondissement de Die étaient pratiquement concernées le même jour à la même heure. Ça représentait la mobilisation de plusieurs centaines, pour ne pas dire de plusieurs milliers de personnes, et sans grand succès, parce que ça traduisait cette mobilisation par la tuerie d'un ou deux loups, mais qui ne réglait pas le problème. On s'aperçoit aussi que d'autres techniques ont été mises en place par les agriculteurs, notamment la technique de capture des louveteaux. À un moment, quand les loups vont mi-bas, elles sortent du terrier, elles vont chercher la nourriture, et le loup mâle fait la même chose, il va chercher de la nourriture, et il y a un moment où les louveteaux sont à l'abandon. Donc à partir de 1850, on s'aperçoit que dans des villages, je pense dans la région de Sous, mais également à Volvan, à Saint-Nazaire-des-Airs, à Boulc, à Glandage ou ailleurs, à Lustre-Crotte, on trouve des familles d'éleveurs qui se sont spécialisées dans la capture des louveteaux. Une technique qui était facile à mettre en œuvre à l'époque, puisque le paysage étant pratiquement désertique, quelque part, il y avait de la garrigue mais pas d'arbres, on pouvait observer les animaux, on pouvait les entendre, les gens avaient une présence sur les terrains qui était plus importante qu'aujourd'hui. Ils entendaient le bruit des animaux ou autres, ils savaient pertinemment quel secteur était habité par les loups, et donc ils allaient carrément prélever les loups dans leur terrier ou autre, pour les capturer, les apporter à la sous-préfecture, histoire de toucher la prime. Parce que ce qui a provoqué la vraie éradication des loups dans le Diwa au XIXe siècle, c'est la mise en place de primes qui étaient variables selon qu'on détruisait un loup femelle, un loup mâle ou bien encore des louveteaux. Ça a été quelque chose de très incitatif, de très motivant pour la population rurale.
Quand on est financé, on se donne les moyens. Hein. C'est vraiment ce qui, selon toi en tout cas, a vraiment donné l'élan à ce... Ou est-ce qu'il y a eu d'autres techniques qui ont...
Non, mais il y a d'autres éléments qui ont joué. Si on prend l'exemple du Vercors, par exemple, il ne faut pas oublier qu'à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est l'époque où le Vercors, qui jusqu'à présent était terra incognita, on connaissait très peu, il y a l'ouverture des routes qui se fait, les grands goulets ou autres. Il y a une exploitation des forêts qui est importante pour permettre d'alimenter en énergie les industries de la vallée de l'Isère. Le fait que l'homme pénètre de façon massive dans la forêt pour couper des arbres ou autres fait également reculer les populations non seulement de loups, mais également d'ours et de tas d'autres animaux qui vivaient à l'état sauvage vers des régions plus isolées et non encore atteintes. Le 19e siècle n'a pas mis une solution unique. C'est la conjugaison à la fois de plusieurs solutions techniques et également de l'évolution de la société avec l'ouverture des routes, comme je le disais, l'ouverture du chemin de fer, enfin des tas d'éléments qui ont fait que la région a accédé à une certaine modernité.
Alors si on reprend cette analyse pour faire le comparatif avec aujourd'hui, donc aujourd'hui le Diwa est beaucoup moins peuplé, a été reboisé, effectivement a fait partie des grandes politiques de reboisement un peu intensives. La croix de Justin s'était cultivée jusqu'en haut par exemple. Il y a ça et puis il y a le fait qu'on n'exploite plus justement ces espaces-là, ces forêts.
Ça joue un rôle. La nature a horreur du vide d'une certaine façon. On s'en aperçoit bien aujourd'hui avec certaines vallées du Diwa qui progressivement retournent à la végétation, ont tendance à se refermer. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il faut qu'on soutienne les élevages, outre le fait que ça fait vivre et travailler des gens au pays qui continuent à animer nos villages et notre économie de façon générale, ils ont un grand rôle écologique en maintenant des espaces ouverts. Ça permet la biodiversité de plantes et de fleurs de toute nature. Et ça permet également, de façon indirecte, la lutte contre un risque qui est quand même assez prégnant et qui risque de le devenir si la situation météorologique ne s'arrange pas à terme. Il y a le risque d'incendie aussi qui est fortement limité par l'exploitation, par l'élevage.
C'est-à-dire qu'en fait, le sentiment que j'ai en t'entendant, Christian, c'est qu'il y a eu, on connaît encore au jour d'aujourd'hui ce qu'est l'espace rural, ce qu'est l'espace urbain, mais l'espace sauvage, ça fait longtemps en fait qu'on ne le connaît plus et on est confronté au retour de cet espace sauvage malgré nous. Donc c'est peut-être ce qui fait qu'on a autant de difficultés à pouvoir s'adapter, à pouvoir trouver des mesures qui soient efficaces.
Effectivement, nous le disions les uns et les autres, organisateurs ou élus, dans nos propos lors de la cérémonie d'inauguration. Mais on a affaire maintenant à une France, j'allais dire, à deux vitesses quelque part, avec un milieu urbain qui se développe de façon très conséquente et qui regroupe la majorité des habitants de ce pays. Et à côté de ça, on a affaire aux espaces ruraux. Le Diwa fait partie de cet espace rural. Ça pose toute la question de l'aménagement du territoire, de l'égalité, j'allais dire, même presque des citoyens dans le monde où nous vivons.
Bon, on s'est fait une petite réforme qui va bien dans ce sens, d'ailleurs, une réforme territoriale qui encourage la ruralité. Bref, c'est sans doute un autre débat.
Je ne suis pas sûr, on peut voir les choses de différentes façons. Si je prends, là c'est le citoyen qui parle, si je pense au Conseil général tel qu'il existait jusqu'à l'année dernière, les conseils généraux ne représentaient pas des populations, des volumes de population, ils représentaient des territoires. Avec la réforme qui vient d'être mise en place et le conseil départemental, on s'aperçoit que dans le Diwa, on a quand même perdu 5 cantons. Il n'y en a plus qu'un, certes avec 2 élus, mais enfin on a perdu un nombre d'élus, alors que les zones fortement urbanisées ont vu leur nombre d'élus augmenter. Donc je ne suis pas sûr que cette réforme-là joue pleinement en faveur de la ruralité.
Justement, c'était ironique de ma part. Je faisais bien exprès. Puisque là, quand même, sur ce sujet du loup, de l'éradication du loup, en tout cas au 19e siècle, aujourd'hui se pose la question de peut-être en revenir à des mesures comme celle-ci. En se nourrissant de l'histoire, qu'est-ce qui serait possible de mettre en place et pourquoi d'ailleurs le politique aujourd'hui ne se prononce pas?
Alors je ne répondrai pas de façon directe à cette question. Moi je me suis intéressé au problème du loup au 19e siècle dans notre région, j'allais dire au niveau de son aspect historique et ethnologique aussi, en essayant de comprendre comment une population donnée à une époque donnée dans un pays donné a répondu à la question. C'était la période 1789-1900. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas les compétences pour émettre un avis, que ce soit en faveur de la régulation ou autre. Je suis par contre convaincu d'une chose, c'est que toute solution dans une société qui se veut un minimum organisée, et je pense notre société, réside dans le débat constructif, avec des arguments qui sont valables tant du côté écologique que du côté des éleveurs. Il faut trouver le consensus. Et moi, personnellement, en tant que citoyen, je ne peux qu'encourager les gens à dialoguer et à les inciter à se référer éventuellement à ce qui s'est passé dans notre histoire récente pour réagir.
Une réaction tout de suite de Harold David, là, c'est ça, parce que je te vois t'agiter sur le côté.
Non, mais bonjour Harold. Bonjour. c'est pas vraiment une réaction, c'est plus un complément à ce que dit Christian, dont je comprends bien la réserve à la fois en tant qu'historien et président de l'association Festival SOS Théâtre de Die qui co-organise.
Non, on l'avait pas dit.
De la résidence. Voilà, c'est dit. Pour ceux qui ne savaient pas encore. Et effectivement, on est sur. Enfin, je suis sur cette même ligne de réserve. Nous, notre rôle, c'est de créer ces espaces justement d'échange, de concertation et de dialogue au travers d'un événement qui est celui de la fête de la transhumance. C'est évidemment pas le seul, et il y a d'autres endroits, d'autres lieux où les éleveurs, les bergers et ceux qui souhaitent réguler, enfin en tout cas améliorer la situation des éleveurs vis-à-vis de la prédation, peuvent le faire. Nous, on est un espace grand public au travers de la fête, et une des raisons pour lesquelles on a répondu favorablement ce matin à la demande de la Fédération nationale ovine de pouvoir s'exprimer sur le sujet, c'est précisément parce que sans que la fête soit une vitrine unilatérale de la problématique, il est vrai qu'à partir du moment où on met en avant l'élevage et le pastoralisme, cette problématique de la prédation ne peut pas être ignorée et évacuée du champ des préoccupations professionnelles. J'espère qu'à l'avenir, et c'est ce que j'inviterai les éleveurs et tous les représentants syndicaux de la FNO, FNSEA et autres structures concernées, c'est justement de travailler plus en amont avec des organisateurs de manifestations comme les nôtres pour pouvoir rendre vraiment ce débat complètement ouvert et faire en sorte qu'il y ait une vraie réflexion de fond qui puisse être menée et partagée aussi avec le grand public, puisque sur cette question-là, ils l'ont bien exprimé d'ailleurs ce matin dans leurs diverses formes de souffrance. C'est pas seulement aussi la souffrance vécu au travers de la prédation en tant que telle, mais aussi de ses conséquences sociales, psychologiques et du regard qui est porté sur l'éleveur, qui est perçu ou identifié comme le méchant face au gentil. Et je crois qu'il faut arriver à sortir de ce manichéisme-là pour embrasser de manière réfléchie, intelligente, l'ensemble de ces problématiques. Et j'espère que la prochaine fête, je ne sais pas si tu en as parlé un peu, Christian, ou pas.
Pas encore.
Voilà, j'espère qu'en concertation avec l'ensemble de nos partenaires, elle pourra permettre de créer vraiment ces espaces d'échange et de dialogue, et que tous les points de vue puissent être exprimés, afin que, puisque l'objectif c'est de faire réagir l'opinion publique, une opinion publique pour qu'elle réagisse de la manière la plus efficace possible, il faut qu'elle soit informée et qu'elle puisse avoir tous les points de vue en face d'elle pour pouvoir se construire sa propre opinion, justement, et ensuite agir et faire pression sur les pouvoirs publics si tant est que ce soit nécessaire. Voilà.
Parce que la question est à peine, enfin ça a été survolé d'ailleurs Christian en disant les écologistes, enfin bon, en fait on le dit ou on le dit pas, mais il semblerait qu'il y ait une opposition entre des défenseurs des animaux, voilà, hein, on va appeler ça donc des écologistes, mais c'est très vague, et des éleveurs qui sont aussi... il me semble des défenseurs d'animaux. Bon.
Sauf qu'au milieu de tout ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Encore une fois, je ne voudrais pas trop me déplacer de ma posture d'organisateur. Mais il y a une loi. Voilà, qui, y a une aujourd'hui loi. Qui protège une espèce qui s'appelle le loup.
C'est ça.
On peut trouver que cette loi est pertinente ou pas, mais la loi existe. Donc on est quand même aussi dans un état de droit. Et je pense que c'est ça qu'il faut commencer par interroger.
Non. D'une façon générale, Baptiste, je crois que les citoyens, par définition, sont des adultes responsables qui sont en mesure d'entendre des arguments. Argument pro ou anti-loup, chacun a la liberté de s'exprimer sur le sujet, d'avoir ses opinions, mais on ne peut trouver que des solutions consensuelles si on veut qu'elles soient durables. Ça passe par un débat. un débat qui soit le plus serein possible. Et une des satisfactions que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est justement la grande responsabilité finalement des éleveurs qui subissent une pression forte, il faut le reconnaître ces derniers temps, et qui ont su profiter de la fête pour apporter un dialogue constructif. C'est ça qui est important. Et ce dialogue constructif, je pense qu'il faut le poursuivre dans les années à venir. Il faut non seulement valoriser la profession par rapport à ses savoir-faire et à ses savoir-être, mais qu'il faut également montrer qu'en France, le débat est possible. On parle tout le temps de lien social, de contact entre les gens et tout. Il ne faut pas faire qu'en parler, il faut le mettre en pratique. Il faut donner aux citoyens de base, qu'ils soient éleveurs ou qu'ils ne soient pas éleveurs, les moyens de s'exprimer, de discuter dans le respect mutuel. C'est comme ça, je pense, qu'avance la société.
Là où je voulais en venir, c'est qu'il me semble effectivement, et vous le dites très bien, que cette fête peut permettre au... est un des moyens pour favoriser le dialogue entre les personnes. Globalement, même les touristes ou enfin les gens de passage sur la fête sont assez d'accord, voire très touchés par les arguments d'état de fête, ce que vivent les éleveurs et les bergers. Mais pour autant, il ne me semble pas que vous ayez, alors là je m'adresse aux organisateurs, la possibilité ou fait déjà venir des pro-loups. Voilà.
Alors,
est-ce que si les deux se retrouvent ensemble dans la même fête, est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'ils sont prêts maintenant à dialoguer?
Il faut être conscient d'une chose, c'est que nous sommes effectivement un opérateur culturel. Là, je parle de l'association Festival Est-Ouest Théâtre de Die, et que nous avons été mandatés par la Fédération départementale ovine, par l'ADEME, c'est-à-dire par les professionnels du monde de l'élevage, pour monter cette manifestation. Cette manifestation, nous la mettons en œuvre quelque part, mais le programme de cette fête, le programme, j'allais dire, professionnel quelque part, c'est le choix des éleveurs, de choisir les thématiques, de choisir les moyens propres à faire avancer leurs idées et à les développer. Donc c'est une construction qu'on fait tout au long de l'année. Ce n'est pas à nous de décider quelque part quelles sont ces orientations qui sont à prendre. Nous, on met en œuvre les souhaits, on est au service quelque part de cette profession. Mais pour avoir discuté avec un certain nombre de responsables ce matin, ils sont parfaitement conscients de leurs responsabilités et ils savent pertinemment que le débat est nécessaire. Moi, je trouve qu'ils ont une attitude qui est très, très citoyenne et très, très responsable de ce côté-là. On n'a pas vu, par exemple, d'images violentes ou autres. Et pourtant, compte tenu de l'émotion qui est la leur avec les nombreuses attaques qu'ils ont ces derniers temps, ils auraient pu choisir de manifester de façon plus virulente. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré être dans le dialogue, dans la construction, dans l'explication. Je crois qu'ils sont sur la bonne voie.
On est plus dans une démarche d'éducation populaire, alors là, vraiment, parlons-en à tout le monde et faites-vous votre avis.
Exactement.
Plutôt que de confronter avec les gens qui sont
exactement
déjà convaincus.
Je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence du citoyen.
Ouais. C'est vrai qu'un clash avec les... entre pro et anti-loup, c'est pas très... Ce sera pas très...
Non,
pas
et puis ce n'est pas l'objectif, on est sûr. Là pour valoriser une profession. J'indiquais quelques chiffres ce matin, ça représente quand même une partie très importante de l'économie d'Ivoise, notamment hors des communes qui sont dans le bassin viticole. C'est 160 emplois directs, plus un certain nombre d'emplois induits derrière. C'est des gens qui font preuve, j'allais dire, d'une grande imagination dans le sens très positif. Ils cherchent des solutions tout en nouvelles. C'est les circuits courts, c'est le fonctionnement de l'abattoir de Die, c'est toutes les coopératives qui agissent dans ce domaine et tout. Et on peut mettre ça en relation avec le développement de l'agriculture biologique ou autre. Je pense que les éleveurs et les agriculteurs en général sont aussi des défenseurs sincères du territoire et de ses valeurs, quelles qu'elles soient.
Que dire de plus ? C'est vrai. Tout ceci est vrai. Merci Christian Rey.
C'était toujours avec plaisir. Merci Radio Diwa.
Allez, on rappelle quand même ce livre, L'éradication des loups dans les Préalpes dromoises au 19e siècle, par Christian Rey, édité par l'association De Augusta et le musée de Die et du Diwa. D'ailleurs, on le trouve où ?
Oh ben on peut trouver la librairie Mosaïque et puis, je sais pas, la librairie du Viaduc ou enfin au niveau local. Et on peut également le commander sur notre site internet De Augusta.
Magnifique, comme ça on fait un peu de promo pour le site en passant.
Merci pour ça, Baptiste.
De rien, c'est voilà. Un plaisir.